Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est midi 45 et c'est la grande table de l'été. Elle est l'auteur d'un seul roman et de quelques poèmes. Elle était la fille d'un pasteur et a vécu presque toute sa vie dans un presbytère. Elle est morte à 30 ans de la tuberculose. Elle fut membre de l'une des familles les plus prolifiques de l'histoire de la littérature anglaise. Ses sœurs s'appelaient Charlotte et Anne et son frère Branwell. On raconte qu'ensemble, ils inventaient et administraient des mondes imaginaires. Elle a inspiré Louise Buñuel, Kate Bush et Georges Bataille. Elle s'appelait Emily Brontë et elle aurait eu 200 ans cette année. En première partie, nous célébrons cet anniversaire en retraversant une nouvelle fois la lande des Hauts de Hurlevent avec Christine Jordis et Catherine Lanor. Et en seconde partie, nous ferons le portrait d'un couple d'artistes qui travaillent la matière numérique, Adrien M. et Claire B. Bonjour Christine Jordis.
Bonjour.
Vous êtes romancière, critique littéraire et spécialiste de la littérature anglaise, pardon. Et bonjour Catherine Lanon. Vous êtes professeure à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et spécialiste de la littérature britannique du 19e. Et on va avec vous évoquer la figure d'Emily Brontë. Et on écoute quelques notes de la musique de Bernard Herrmann qui avait composé cet opéra, Wuthering Heights. Est-ce que vous vous souvenez de vos deux premières lectures respectives, des Hauts de Hurlevent et de vos rencontres avec Emily Brontë?
Vous voulez dire la première fois qu'on a lu les Hauts de Hurlevent?
Oui.
Oh là là, j'étais moi probablement toute petite, on m'avait donné comme livre de prix Jane Eyre. Je me souviens, et je suis tellement tombée amoureuse de cette famille, d'autant plus que je vivais moi-même près de la lande pendant les vacances d'été, que je me suis totalement identifiée à Charlotte Brontë, pas tout à fait à Émilie parce que c'est trop difficile, elle est trop loin de nous d'une certaine façon, mais j'ai aimé ce livre passionnément toute ma vie, qui commence à être longue. Donc voilà, en ce qui concerne ma lecture des Hauts de Hurlevent, c'est une lecture continuelle. J'ai jamais arrêté de lire les Hauts de Hurlevent, finalement. Un de ces rares livres qu'on lit toute une vie.
Et vous, Catherine Lanon?
Moi, j'avais lu Jane Eyre plus jeune, mais c'est un des premiers livres que j'ai lu à l'adolescence en anglais. Et ça a été un coup de foudre. Donc, il ne s'est jamais démenti. Voilà. Effectivement, on le relit toute la vie.
Vous l'avez dit, Christine Jordis, elle est moins connue que Charlotte Brontë. Enfin, on connaît moins de choses de sa vie, puisqu'elle a écrit aussi moins de correspondances et elle est l'auteur d'un seul roman. On a l'impression que sa vie est entourée d'un certain mystère. Est-ce que c'est ça, d'après vous, qui a construit le mythe aussi d'Emily Brontë, cette absence d'informations autour d'elle?
L'absence d'informations, je crois qu'à l'époque, malgré le pseudonyme masculin que les Brontë s'étaient donné, Wuthering Heights a été très mal compris, ou tout au moins désapprouvé par la multitude des lecteurs qui étaient choqués de la langue, des mœurs, et de cette mort et de cette violence très présente au cœur du livre. Et je me demande si cette exclusion d'Émilie, d'une certaine façon, de sa famille, n'a pas joué aussi par la suite. Alors maintenant, peut-être, au contraire, est-elle en faveur de la modernité. C'est-à-dire qu'on trouve chez Émilie quelque chose peut-être de plus fort, de plus étonnant, de plus radical, de plus absolu que ces Charlotte, dont la personnalité est plus humaine, disons, plus proche de nous, plus facilement assimilable et intégrable dans notre société. Voilà la grande différence entre les deux et la raison pour laquelle, finalement, Émilie est un plus grand génie. À mon avis, tout au moins. Je ne sais pas si vous direz le contraire, Catherine.
Non, je serais d'accord. Il y a un parti pris chez Émilie d'être réservée, de préserver toujours son espace privé. Elle a toujours refusé d'aller dans le monde. Elle n'a pas voulu aller à Londres, elle n'a pas voulu révéler son identité. Elle ne voulait pas publier. Elle écrivait des poèmes, une multitude de poèmes qu'elle mettait au propre, mais qu'elle ne voulait pas publier. Donc il y a un mystère et le mythe, en fait, a été construit par Charlotte dans la préface qu'elle a rédigée pour justement créer une sorte de seuil entre le lectorat qui ne comprenait pas et le mystère d'Émilie. Et c'est elle qui a construit ce personnage ivre de lande, solitaire.
Vous croyez mythique. Vraiment, vous croyez qu'elle l'a construit? Parce que elle essaye de l'adapter en disant que si elle avait pu vivre dans des conditions normales, son esprit, et plus longtemps, ce serait velouté. Mais c'est une chose affreuse de dire ça. Moi, je trouve que Charlotte a essayé d'adapter Émilie au lectorat, et ça, c'est construit. Parce que, en réalité, Émilie était comme son livre. C'est-à-dire quelqu'un de totalement renfermé en soi, tout en ayant des réflexes enfantins et heureux, en aimant des toutes petites choses de la vie courante, tout en étant très intégrée à la vie courante chez elle, mais quand même incapable de se mêler à la société, elle était le contraire, elle avait le contraire de ce qu'il faut pour se mêler à la société. Donc moi je ne pense pas que Charlotte ait eu besoin de construire ce mythe, je pense que ce qu'elle était, Émilie, a donné naissance à ce mythe, c'est-à-dire quelqu'un de difficile d'accès. De difficile d'accès. Je pense qu'elle l'était réellement. Qu'elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas s'éloigner de Haworth, le presbytère. Elle a été envoyée deux fois, dont une fois en Belgique, auprès du fameux monsieur Léger, qui aimait sa sœur. Et elle n'a pas pu vivre là. Au bout de deux mois, il a fallu la rapatrier. Elle se mourait. Elle mourait si elle était loin de sa lande. Elle était son paysage. C'était son identité. Et bien sûr, ça construit un mythe, ça. Mais il n'y a pas besoin d'une sœur pour le... À mon avis, pour le construire, elle a au contraire essayé, la sœur, d'adapter. C'est ce que je lui reproche, moi. Parce qu'il ne fallait pas essayer d'adapter.
Mais pourquoi ça peut être justement compliqué, quand on est universitaire comme vous, Catherine Lannon, de travailler sur une figure qui, en même temps, est mythique? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du mythe qu'il faut défaire une fois qu'on rentre dans le texte et qu'on l'analyse? Ou est-ce que ça participe aussi de l'œuvre?
Oui, c'est peut-être pas l'approche la plus critique, la plus décortiquée. On n'a pas la montagne de documents, justement l'approche génétique, tout ça. On peut pas faire avec Émilie ce qu'on peut faire sur d'autres textes. Mais ça reste une source de fascination et de plaisir extrême, hein, de travailler sur cette œuvre. Et pour poursuivre ce que vous disiez, Christine, c'est quelqu'un qui a été traumatisé dans l'enfance, puisque toute petite, à l'âge de 6 ans, elle est envoyée avec ses sœurs à l'école de Cowan Bridge, une école qui est insalubre, qui est pour filles d'hommes d'église pauvres, et les deux sœurs aînées meurent. Donc quelque chose se passe sans doute dans la petite Émilie, se cristallise à l'âge de 6 ans, et c'est vrai que c'est viscéral, elle ne peut pas quitter Haworth, elle ne peut pas aller ailleurs. Et c'est vrai que les poèmes qu'elle écrit sur la lande sont des poèmes magnifiques, et où elle est heureuse, et où il y a une sorte d'élévation, de High Waving Heather, par exemple, le poème sur la bruyère, où elle est lyrique et très heureuse dans sa solitude. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a un côté effectivement extrêmement pratique, qui pèle les pommes de terre, la cuisine, qui s'occupe des choses pratiques. Voilà.
C'est Constance Lacroix, dont je dis un mot, parce que c'est elle qui a traduit les lettres choisies formidables.
Correspondance,
dont vous allez peut-être parler, Romain, et qui disait qu'on l'appelait le major, parce que chez elle, elle tenait les comptes, elle dirigeait la maison, elle était une forte tête, Émilie, et donc bien intégrée à la vie quotidienne. Mais voilà, vous disiez mythe, mais c'est vrai qu'il y a un mythe. Mais est-ce que nous sommes prisonnières du mythe? Non, parce qu'on peut quand même juger de son œuvre et voir qu'il y a aussi un art extraordinaire dans Les Hauts de Hurlevent. Et Catherine, en tant qu'universitaire, certainement le sait mieux que personne. Je veux dire, c'est pas un roman qui a été écrit comme ça, avec le vent et la neige, hein. Il y a toute une concertation, une construction à la base qui est remarquable.
Non, mais je vous propose d'entrer dans le roman, justement.
M'oublierez-vous? Serez-vous heureux quand je serai sous terre? Dans 20 ans d'ici, direz-vous, voilà la tombe de Catherine Earnshaw. Je l'ai aimée autrefois, il y a longtemps. J'étais affreusement malheureux de la perdre, mais cela est passé. J'en ai aimé beaucoup d'autres depuis. Mes enfants me sont plus chers qu'elle ne me le fut. Et quand je mourrai, je ne me réjouirai pas d'aller la rejoindre, mais je m'attristerai de les quitter. Direz-vous cela, Heathcliff? Ne me torturez pas. Jusqu'à ce que vous m'ayez rendu fou comme vous, cria-t-il en dégageant de force sa tête et en grinçant des dents. Pour un spectateur de sang-froid, ils formaient tous deux un étrange et terrifiant tableau. On comprend que Catherine conçut le ciel comme un lieu d'exil, si en même temps que son corps terrestre, Elle ne devait pas dépouiller son âme. Une rancune sauvage se peignait sur son visage pâle. Ses lèvres se décoloraient et ses yeux jetaient des flammes. Ses doigts se crispèrent rigidement sur les boucles de cheveux qu'elle tenait. Quant à lui, s'aidant d'une main pour se lever, il avait pris de l'autre le bras de Catherine et ses capacités de douceur étaient si peu en accord avec les ménagements qu'exigeait l'état de la malade que, lorsqu'il la lâcha, je vis 4 meurtrissures bleues imprimées sur la peau exsangue. « Êtes-vous possédé du démon ? » poursuivait-il sauvagement, « pour me parler ainsi quand vous êtes mourante. Savez-vous que tout ce que vous me dites sera gravé au fer rouge dans ma mémoire et me brûlera toujours plus profondément, à jamais, quand vous m'aurez quitté ? Vous savez que vous mentez en disant que je vous ai tué, et vous savez aussi, Catherine, que je ne peux pas plus vous oublier que ma propre existence. »
On écoute ici une lecture des Hauts de Hurlevent par Jean Topard, qui date de 1958, une lecture un peu dramatique. Et où on entend ici, c'est un dialogue donc entre Catherine et Heathcliff, qui est donc le couple à qui il arrive une histoire d'amour, dans les hauts de lieu qui s'appelle les Hauts de Hurlevent. Et on entend ici toute cette violence dont vous parliez, Christine Jordis. Comment elle opère, cette violence, dans les Hauts de Hurlevent ? Elle procède de quoi ? Parce qu'elle est assez mystérieuse, finalement.
La violence, elle est celle de personnes, Heathcliff et Catherine, qui, dans le royaume de l'enfant, de l'enfance, ont connu un bonheur et une liberté absolue et qui refusent de jamais y renoncer. C'est-à-dire de composer avec le monde de la raison, qui est celui des adultes et celui de la société. Pas de compromis, ils restent attachés envers et contre tout, et jusqu'au crime, au monde de l'enfance. Et Heathcliff ira, mais jusqu'à torturer, jusqu'à tuer les êtres autour de lui, par vengeance, parce qu'on l'a chassé du royaume perdu de l'enfance et que, avant tout, il désire la liberté de l'enfance, le retour à l'identité que lui ne perd pas, mais que sa bien-aimée Catherine perd, parce qu'elle est tentée par l'autre monde, qui est celui de la raison, de la douceur et de la société, d'ailleurs. Je crois que la violence provient de là, mais elle est aussi dans le paysage. La violence du paysage et la violence des êtres étant absolument équivalentes, les êtres sont exprimés par des forces pures, car ces forces pures sont la colère, justement la violence du vent sur la lande, la violence des tourbillons de neige, et il y a bien des endroits du roman où ces tourbillons interviennent, au moment de la mort d'ailleurs, et précédant la mort, et tout cela ne fait qu'un. Je veux dire que le paysage, les éléments, l'énergie naturelle et la révolte des personnages principaux, Catherine et Heathcliff, ne font qu'un. Voilà, moi c'est comme ça que je sens le livre, je crois, et que Bataille, mais on pourrait parler, mais je voulais laisser la parole à Catherine, évidemment, Bataille, Georges Bataille a beaucoup parlé de tout ça, dans la littérature et le mal, et la violence pour lui, et le désir de mort et le désir de tuer, étant évidemment le mal, mais un mal qu'il admire, on le sent.
La question qu'on se pose aussi, c'est ce lieu, donc les Hauts de Hurlevent, est-ce que ça forme une micro-société ? C'est-à-dire qu'il y a aussi un dispositif de huis clos, on a à peu près une dizaine de personnages, pas beaucoup plus. Et est-ce qu'il y a vraiment une image de la société dans ce roman-là ? Ou est-ce que c'est pas les Hauts de Hurlevent qui sont une métaphore d'une société en soi ?
Les deux. Mais c'est une topographie absolument fascinante avec ces deux maisons.
Les deux maisons éloignées.
Sont,
oui.
Voilà, la ferme de Wuthering Heights et puis qui était la maison ancestrale avec le nom du légitime propriétaire gravé sur le seuil. Et puis la maison de Thrushcross Grange qui est magnifique, hein, qui est la maison de la haute société. Donc on a effectivement une polarité qui est à la fois mythique et en même temps qui reflète la société. Mais c'est là tout le pouvoir du roman. Quand le roman a été publié, il y a eu des critiques extrêmement violentes, extrêmement défavorables, extrêmement étonnées qu'on puisse parler de l'amour et de la mort avec cette violence, et n'imaginant pas que ça avait été écrit par une femme, bien sûr. Donc c'est un roman extrêmement subversif qui transgresse toutes les règles. On a entendu cet extrait magnifique qui était parfait parce que c'est l'essence de la passion absolue, de la fulgurance, de la ligne de fuite et de la ligne de mort, hein, la passion shakespearienne jusqu'à la mort. Mais il y a aussi ce côté extrêmement pratique. On retrouve la dualité d'Emily Brontë et il y a un côté extrêmement pragmatique dans ce que décrivait Christine Jordis, qui est la façon dont Heathcliff va chercher à s'approprier les descendants, les maisons. Il y a un côté presque légal dans la façon dont elle décrit tout ça.
Tout à fait légal.
C'est C'est en ça que c'est extraordinaire, hein, c'est multiple. Vous me demandiez comment un universitaire peut s'intéresser toujours à ce roman, mais il est extraordinaire. Claire Bazin a travaillé beaucoup sur la littérature et le mal, et sur Heathcliff et le mal. Vous avez l'enfance maltraitée qui enchaîne qui déclenche cet enchaînement de violence. Vous avez Heathcliff noir, ça c'est une ligne d'approche très actuelle, parce qu'après tout il a le teint basané, donc est-ce qu'un...
Il est bohémien,
on ne sait pas d'où il sort. Voilà. Mais il ne faut pas trop tomber dans les anachronismes, je trouve, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on aurait la tentation de s'orienter vers des explications comme ça, où il est noir, etc. Bon. D'accord. Il est chassé, c'est ça l'important.
Oui. Carol Phillips a écrit un roman où il est un enfant noir trouvé à Liverpool, qui était un endroit de la traite des esclaves. Donc on peut se poser la question. Mais bohémien, enfin oui, c'est l'exclu de toutes les cultures.
C'est ça. Oui. Il est l'exclu. Et l'origine, il est l'exclu. Et il se venge.
Et vous avez aussi, alors hors la vengeance, vous avez aussi ces personnages féminins d'une force extraordinaire. Comme Emily l'était elle-même, hein, comme vous le disiez. Et ça a fait la gloire de la critique des années 80, la grande critique féministe. Il y a un livre absolument fondamental qui est The Mad Woman in the Attic, La folle dans le grenier, mais qui s'ancre aussi dans Emily Brontë, et c'est la Bible infernale d'Emily Brontë. Comment elle répond à toute la tradition canonique, comment elle est une femme qui s'empare de la tradition canonique et qui écrit quelque chose de complètement différent. Donc les lieux, il y a une transposition du gothique dans le domestique, dans la ferme, et il y a une réinvention de toute une tradition.
Ce qui frappe aussi, on l'a entendu dans la lecture un peu, c'est la frontalité de la parole, c'est-à-dire les dialogues, les personnages se parlent de manière extrêmement frontale. Ils peuvent énoncer l'envie de meurtre, le fait de ne pas s'aimer, et c'est ça aussi qui est extrêmement surprenant. Et c'est peut-être aussi
ça fait partie de la violence. Ça dépend au manoir de la Grive. Les personnages sont dans la douceur, et les comparaisons d'ailleurs avec le monde animal abondent, puisqu'il y a la petite épagnole d'Isabelle, la sœur, et puis il y a le levrault à la mamelle auquel Catherine compare Edgar, son mari, etc. Et c'est là, c'est le monde de la douceur, c'est le monde de la faiblesse, c'est le monde du compromis, effectivement. Et puis, dans l'autre monde, on se parle dans l'autre monde, c'est-à-dire dans le vent, là où le vent souffle dans l'étendue, ce qui est l'incarnation de la part d'entre nous irréductible, celle qui ne peut pas se soumettre à la société, à ses lois et à sa mesure. Là, on se parle violemment, comme on pense, parce qu'on a la force du vent en nous, parce que, en quelque sorte, on est animé par des forces naturelles, comme les Heathcliff.
Il y a aussi un peu une inversion de sang en même temps, parce que le monde de la grange est un monde un peu hypocrite, hein, et les deux enfants se déchirent un chiot quand on les voit pour la première fois. Et comme vous le disiez avant de rentrer dans le studio, mais tout le monde est cruel, et Isabella laisse pendre son petit chien quand elle s'enfuit avec Heathcliff. Tandis que dans cette violence absolue et extrême des deux amants, il y a aussi une sorte de pureté, de puissance des sentiments, et comme si quelque chose venait apporter une rédemption à leur violence, qu'on n'a pas forcément du côté...
C'est l'hypocrisie de la société, l'hypocrisie grâce à laquelle on vit. Parce que si on se mettait à sortir aux gens ce qu'on pense d'eux, de A à Z, la vie serait impossible. Donc la vie en société repose sur cette hypocrisie qu'on voit effectivement au manoir de la Grive, et dont les personnages ne sont pas absolument estimables. Ils ne sont pas dégoûtants non plus, on ne peut pas aller jusque-là. Elle s'est gardée de charger les personnages de Edgar et d'Isabella. Isabella un peu peut-être, mais Edgar reste un homme estimable, même s'il est faible et à la limite lâche, mais pas tout à fait quand même. Tandis que la rédemption existe, mais est-ce qu'elle existe grâce à la violence ? On va jusqu'au bout de la violence, mais est-ce que la rédemption suit la mort ? Elle suit la mort de Catherine et de Heathcliff. Quand on voit que leurs descendants, puisque tout est légal comme vous le dites, et Heathcliff s'approprie le manoir de la Grive par un mariage, au fond. Donc tout cela est légal, mais est-ce que pour autant on peut dire que la rédemption est due au personnage violent ? Je ne sais pas. Peut-être qu'en consommant jusqu'au bout sa violence, jusqu'à la mort, à ce moment-là, une rédemption est possible pour ceux qui ont en eux la douceur. Parce que sont quand même les personnages secondaires, les descendants de Catherine et Heathcliff, qui vont obtenir ce bonheur, cette douceur de vivre. Parce qu'eux-mêmes sont moins capricieux et moins violents. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que vous l'avez lu, Catherine. Je sais pas.
Il y a un débat.
C'est insondable de toute façon, et c'est la structure du livre aussi qui veut ça. On a une structure là encore extrêmement innovante et extraordinaire, puisqu'on a un système de bois de gigogne et que on rentre dans le roman par le biais d'un personnage très secondaire, très falot, Lockwood, qui a un rêve extraordinaire qui nous plonge dans l'imaginaire et la hantise. Et ensuite, le roman va être raconté par Nelly, qui est l'intendante et qui est une personne de bon sens.
Elle qui porte toute la narration.
Voilà.
Et Mr. Lockwood, quand même, son interlocuteur, qui raconte aussi, puisque c'est des mises en abîme successives comme ça, on raconte à travers des personnages.
C'est aussi un gros roman, justement, sur la puissance du récit, puisque donc Lockwood, le narrateur du début, est complètement tendu à recueillir l'histoire de Catherine et Heathcliff, de tout ce qui s'est passé à Hurlevent. Et il y a un moment où je me souviens où Lockwood dit que la lecture, en tout cas la réception de toute cette histoire, est un processus actif. Il dit que c'est quelque chose d'actif, comme si quelque part, la lecture aussi des Hauts de Hurlevent était quelque chose d'extrêmement actif. Enfin, le lecteur est dans un état de tension.
Mais le pauvre Lockwood, il lui arrive quand même de se faire attaquer par un fantôme, celui de Catherine, par une nuit cinglante et glaciale. Et il a du mal à s'en remettre. D'autant plus que Heathcliff fait irruption là-dedans. Enfin, c'est vrai qu'on ne peut pas lire ça tranquillement. Et on ne le lit pas tranquillement. La preuve, c'est que nous tous, là, autour de cette table, nous sommes encore traversés par le roman et nous vivons avec. Et moi, j'ai jamais rien lu de plus beau, franchement. C'est pas une œuvre. C'est une œuvre construite, c'est une œuvre d'art, évidemment. Mais c'est surtout une œuvre d'être. Et je n'ai jamais rencontré son équivalent dans l'être. On rencontre des livres où il y a un petit peu de la personnalité de l'écrivain, quelquefois beaucoup, mais une œuvre d'être, comme celle-là, c'est-à-dire une complète coïncidence entre la personne qui écrit le vent et la neige qu'elle décrit et l'histoire qu'elle a écrite, ça, j'ai jamais rencontré ça à ce point. Non, c'est le plus beau roman de tous les temps, pour moi.
Oui, il est traversé de part en part par la fulgurance des éléments et il est d'une maîtrise absolue pour rendre cela, pour créer l'affect chez le lecteur. Et ce serait intéressant d'avoir votre sentiment, mais on a le sentiment d'avoir vu Heathcliff et Catherine enfants sur la lande.
Oui, oui.
Or, on ne voit rien, c'est dans le blanc.
Mais c'est jamais raconté.
Voilà, c'est dans le blanc du texte qu'il trouve, qui est écrit dans les marges du texte canonique de la Bible, de l'Ancien Testament. Là, elle dit qu'ils sortent sur la lande, et puis ensuite ils sont revenus, ils sont punis, et le lecteur imagine. Et donc le lecteur participe, comme vous disiez.
Mais vous savez, c'est très vrai, c'est absolument vrai, parce que vous avez la même chose pour le paysage. Il n'y a pas tout le temps des descriptions du paysage, et pourtant le paysage est tout le temps présent, même quand vous êtes devant la cheminée, parce que le paysage, il est incarné dans les personnages, et que la situation de l'enfance, il n'y a pas besoin de la représenter, au contraire, c'est très habile de ne pas le faire, ça l'aurait peut-être trop concrétisé, mais là, on la sent, elle est là. Elle est là dans les touffes de genêt, elle est là dans les rochers de Penistone, elle est dans chaque brin de bruyère de la lande qu'Émilie a demandé, alors qu'elle était en train de mourir, qu'on lui rapporte un brin de bruyère de la lande. Comme Catherine Henshaw, avant de mourir, ouvre grand la fenêtre pour revoir la lande, pensant que en revoyant la lande, elle retrouvera l'identité qu'elle a perdue. Vous voyez, c'est très très fort, cette identification, cette identité de personnages et de la nature.
Mais ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on a l'impression qu'elle touche à quelque chose de l'ordre du mystère de l'écriture, enfin, ou des limites de l'écriture justement, puisque vous racontiez, donc on ne voit pas les promenades dans la lande de Catherine et Heathcliff, et il y a quelque chose de cet ordre, enfin, voilà, ça peut me faire penser à Rimbaud éventuellement, à quelqu'un qui a écrit juste un seul roman, dans lequel qui est extrêmement chargé et qui touche aussi, et qui après s'arrête, qui reste seul, isolé. Quelque chose de cet ordre.
Oui, elle écrivait, en fait, sans doute, un deuxième roman. Il y a une lettre à l'éditeur qui l'atteste. Mais voilà.
C'est ce qu'annonce Constance Lacroix, là, qui était donc désolée de ne pas venir. Elle fait un petit billet et elle me dit, ce que je ne savais pas, ce que vous saviez, mais chose excitante.
Il y avait un projet, oui.
Il y avait le projet d'un deuxième roman. J'ai du mal à y croire. Il y a les poèmes tout de même. Il y a tous les poèmes qu'elle a écrits, qui sont de beaux poèmes également. Mais pas très différents du roman, il faut dire. C'est la même texture.
On a du mal à imaginer que, comme pour Rimbaud, ça aurait été la même chose.
Ça aurait été possible, on peut pas croire qu'elle aurait écrit un second roman. Ça aurait presque été dommage, non? Si elle avait mûri, si elles étaient adoucies, comme le disait sa sœur Charlotte, c'est pas ce qu'on veut, ce velouté de l'âge. En ce qui concerne Emily Brontë, on veut au contraire sa radicalité absolue.
La magie du regard et de l'écriture d'Emily Brontë est d'opérer un renversement des thèmes négatifs, des thèmes douloureux, en thèmes bienfaisants. Elle parvient à dépasser la contradiction, la cassure, par un acte créateur, un acte qui réussit, et c'est cela qui est très humain, à diviniser l'ici-bas, la terre, ce qui est immanent, un acte qui arrive à insuffler une vitalité et une lumière céleste, mais sur terre. Et on a dans ces poèmes heureux, presque euphoriques, des images apaisées, pacifiées, lumineuses, des images, et on a envie de reprendre l'expression de René Char, des images de contre-terreur, c'est-à-dire des paysages où la déchirure due à l'homme fait place enfin à une continuité sensible.
C'est la voix de Franck Évrard qui parle donc des Odes de Hurlevent et d'Emily Brontë et de ses poèmes. Et il parle de ce contraste entre la paix et la violence. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans tout le roman et qu'on n'arrive pas vraiment à démêler. Comment vous faites avec ce contraste-là qui est présent dans tout le roman?
Il est présent dans la dernière phrase, vous souvenez-vous, où on regarde une terre apaisée, heureuse, où fleurissent les fleurs près de la tombe, et on se demande pourquoi et comment il peut y avoir encore des êtres tourmentés là-dedans. Parce qu'on voit les fantômes de Catherine et Heathcliff se promener sur la lande. Donc le contraste, il existe jusqu'à la dernière ligne, vous voyez. C'est curieux de s'en étonner, parce que finalement, nous sommes pleins de contradictions. On ne peut pas tout résoudre dans l'unité. Alors qu'Emily Brontë ait souffert de ces contradictions, je le crois, c'était une âme extraordinairement tourmentée, qui ne croyait peut-être en Dieu, j'en sais rien, ça se faisait à son époque, moins à la nôtre. Elle croyait dans le diable, ça c'est certain. Mais je pense qu'il n'y a ni religion, ni transcendance, ni espoir de l'au-delà. Que l'au-delà, c'est là, c'est la terre, c'est la lande, c'est la rugosité de la terre, on peut la toucher. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc il faut s'arranger de nos contradictions. Elles ne sont pas dépassées.
Est-ce que c'est ça qui a pu choquer justement au moment de la publication? Cette immanence, le fait que tout soit là, que dans la lande, il n'y a pas de solution qui serait de l'ordre divine ou mystique?
C'est très singulier pour une fille de pasteur, qui allait d'ailleurs assez peu à l'église, qui visiblement ne croit pas à l'au-delà, comme vous le disiez, et qui a sa propre mystique. Je crois qu'il faut quand même employer le terme de mystique, mais c'est une mystique effectivement de l'immanence. Et ce que vous disiez tous deux me faisait songer à ce passage du roman où Catherine, la première Catherine, rêve qu'elle est au paradis et s'y ennuie mortellement, et les anges, comme elle sent, tellement la rejettent sur la terre, dans la lande, et là elle se réveille, elle est heureuse. Donc le seul lieu de toutes les contradictions, de toutes les tensions, de tous les vents et de toutes les libertés, c'est la lande pour elle. Et il n'y a pas d'ailleurs... La résolution se fait... Catherine numéro 2 apprend à lire à Hareton, à Henshaw, et le mot qui est cité, c'est contrary, enfin la contradiction avec un trait d'union. Donc il y a une sorte d'union des deux générations, des deux maisons qui se fait à la fin. Et en même temps, elle préserve le côté mystique de la lande, puisque un petit pâtre a aperçu les fantômes de Heathcliff et Catherine se promenant sur la lande.
Mais ce qui est curieux, c'est que Emily ne désirait pas de résolution, puisque dans ses poèmes, enfin je ne peux pas les citer, je ne les ai pas sous le nez, elle dit que quelle que soit la torture, elle l'accepte. Tout le tourment qu'elle vit, elle l'accepte, parce que la vision qu'elle en tire est divine. Elle dit quelque chose comme ça, je ne connais pas le poème par cœur, j'ai juste celui-là. « Oui, c'est là tout ce que j'implore, vive ou morte, une âme sans chaîne et le courage d'endurer. Donc, elle ne cherche pas, elle, dans sa vie en elle-même, de résolution. Elle sait très bien qu'avec cette violence-là, c'est la, une violence qui consomme jusque organiquement, jusqu'à la mort. Organiquement, c'est ça, on a l'impression.
Elle ne cherche pas de réponse manichéenne avec cette ici-bas et cet au-delà du tout. Et la liberté, elle la trouve, l'élévation de l'âme, elle la trouve dans la lande. Et il y a des, elle ne cherche pas les richesses, elle ne cherche pas la, elle, les poèmes disent souvent qu'elle ne cherche pas la renommée, elle ne cherche pas la célébrité.
Elle était bien au-delà de ça. Hein.
Voilà, elle cherche l'exaltation dans la liberté, et il y a un poème qui commence par « No coward soul is mine », mon âme n'est pas lâche, donc elle affronte toute cette difficulté.
C'est curieux ce mot de mysticisme, Catherine, que vous avez employé, parce qu'il fait débat. Blondel, Jacques Blondel, qui a écrit une thèse, comme vous le savez, sur elle, et le mysticisme, employant le mot, est contredit par Bataille, sans vouloir jouer les érudits, mais contredit par Bataille, qui trouve qu'on ne peut pas parler de mysticisme, parce qu'il n'y a pas, comme dans le mysticisme, quelque chose de cultivé méthodiquement et de désiré chez Emily Brontë. Il pense qu'il y a une espèce de spontanéité de l'être qui se livre à ses états immédiats, vous voyez, et que l'exaltation, l'illumination surgissent d'elles-mêmes, l'extase surgit de soi. Mais ça n'est pas, comme dans le cas des mystiques, quelque chose de cultivé et de préparé, comme quand on lit Sainte Thérèse, par exemple. Donc Bataille refuse le mot pour Emily Brontë.
Ça n'est pas chrétien, c'est une fulgurance. Donc, bon, moi,
c'est pas chrétien, non,
moi,
pas du tout.
Moi, je dirais Deleuzien, les lignes de fuite.
Ça a des connotations chrétiennes, quand même, hein, mystique. Non ?
C'est de l'ordre de la fulgurance.
Voilà.
Peut-être qu'on va s'arrêter sur ce mot-là. Merci à toutes les deux, Catherine Lanone et Christine Jordis, d'avoir parlé d'Emily Brontë à l'occasion de ses 200 ans. On peut lire Les Hauts de Hurlevent, qui ont été reparus en poche aux éditions Robert Laffont au mois de juin, avec une préface de Lydie Salvert.
Yeah!
Et on écoute Kate Bush, Wuthering Heights, publié en 1978. Kate Bush qui est née elle aussi comme Emily Brontë le 30 juillet, mais il y a 60 ans. Un très joyeux anniversaire à elle.
France Culture, la grande table d'été, par Romain de Bec de Lièvre.
Dans une pièce obscure, des particules de lumière sont projetées sur un voile de métal sculpté. Quelque chose qui ressemble à un nuage numérique circule dans l'espace. Il y a aussi de la lumière sur le sol et sur les murs, qui réagit au corps et au passage des visiteurs. Nous sommes dans une installation, un espace aménagé par l'homme et la machine, qui capte et travaille la lumière. Bonjour Adrien M. Éclairbé. Votre travail depuis une dizaine d'années tisse les liens entre l'informatique, le graphisme et le corps humain. Votre installation, L'ombre de la vapeur, est visible à la fondation d'entreprise Martel à Cognac. Écoute la composition musicale d'Olivier Mélano qui accompagne votre installation, donc à la galerie de la Fondation Martel à Cognac. Est-ce que vous pourriez nous la décrire, cette installation, en des termes très simples, ce qui est toujours très très compliqué à la radio?
Bonjour Romain. Elle a été très bien écrite en introduction, déjà.
C'est donc des particules de lumière qui sont projetées à l'intérieur de métal qui est sculpté.
Alors, c'est des projections de vidéo. Sur une surface qui n'est pas plane, qui est donc un grillage, une voile de métal sculptée. Et en fait, dans l'obscurité, on a vraiment la sensation que les particules flottent, puisque la matière sur laquelle on projette semble disparaître. Et on a travaillé un petit peu sur cette sensation d'illusion, de ne pas savoir en face de quoi on se trouve.
On ne sait pas exactement si c'est
voilà.
De la,
et on
si
aime bien,
matière.
On aime bien créer ce trouble-là, créer des sensations peut-être inédites, ou en tout cas à cheval, entre des sensations connues et d'autres moins connues.
On aime bien travailler la matière, enfin la lumière, comme si c'était une matière physique, c'est-à-dire qu'on développe des outils numériques qui font bouger finalement ces images, comme si c'était des objets réels. Dans l'ombre de la vapeur, on a développé tout un modèle physique de mouvement qui est proche de la physique des fluides, mais qui nous permet de faire sentir aux visiteurs comment se propagerait l'air à son passage. Ce sont des volutes qui transportent en fait toute cette vapeur d'alcool qu'on imagine.
Oui, c'est lié, puisque donc vous êtes emparé de ce lieu, la Fondation Martel à Cognac, et c'est lié aussi à la production du cognac et un type de champignon.
Alors, je pense que pour décrire avec justesse cette installation, on va être obligé de faire sa genèse, la chronologie en fait. À la fois, tout d'abord, la commande par Nathalie Viau, sa directrice, la directrice de la Fondation d'entreprise Martel, d'une installation immersive et interactive dédiée à l'espace de 900 mètres carrés du rez-de-chaussée qu'elle inaugurait justement ce mois de juin dernier. Ensuite, un premier voyage et une rencontre avec l'espace, et avec ce bâtiment et son histoire, et avec un petit génie du lieu que tout le monde connaît à Cognac sous le nom de Torula, la Torule. Et l'anecdote, l'histoire de ce champignon nous a touchés. Voilà. On peut en dire un peu plus. Dans les années 1870, un pharmacien qui se nomme Antonin Baudouin découvre, en allant à Cognac, que les murs sont recouverts d'une sorte de suie, en fait, une matière noirâtre. Et il se penche un petit peu sur cette matière et il découvre que c'est un champignon. et qu'il ne fait pas partie de la famille des Torules. Et c'est pour ça que, par la suite, on lui donnera le nom de ce pharmacien, donc Bodonia compiacensis. Ce champignon a une particularité, c'est qu'il se nourrit exclusivement des vapeurs organiques d'alcool. On sait que dans la fabrication du cognac, et c'est dans ce bâtiment qu'avait lieu l'embouteillage avant, on sait que dans la fabrication du cognac, il y a à peu près, je ne sais plus, 3%, 5% de la production annuelle qui disparaît et qui est essentielle au processus de création d'un bon cognac.
Et cette notion,
voilà, c'est la fameuse part des gens. Et ça, c'est quelque chose qui nous a touchés parce qu'on s'est dit, ah, c'est intéressant. Tiens, l'immatériel est nécessaire. L'évaporation, le fait qu'on perde quelque chose est nécessaire pour que le processus et le fait de donner de la valeur fonctionne, en fait. Et puis, on s'est penché sur l'histoire de ce champignon, sur sa matière noirâtre, et comme ça, nous qui travaillons tout le temps dans l'obscurité, parce qu'évidemment, faire des projections vidéo en plein jour, ça marche pas. Donc, on a comme ça une histoire avec le noir et avec l'occultation. On a été touché, voilà, par l'imaginaire de ce champignon, et on a décidé de lui rendre hommage.
Après, je pense que l'humilité de ce champignon, qui est vraiment finalement un personnage périphérique au départ de l'histoire du cognac, ça nous faisait plaisir de le mettre au centre de la création et de se dire, si on l'étudie bien, qu'est-ce qu'il peut nous raconter? Quel imaginaire il porte en lui? Qu'est-ce qu'il a traversé comme étape, puisqu'il a finalement traversé tous les murs de toute la ville?
Et c'est intéressant parce que du coup, le champignon qui est cet élément naturel, vous produisez une installation qui est inspirée de cet élément naturel-là, qui, elle, est totalement artificielle. Et on retrouve souvent dans votre travail cette espèce de confrontation entre la nature, ça peut être vous pouvez faire des installations qui reproduisent le mouvement de l'air, mais avec énormément de technologie. Comment s'est passée pour vous la rencontre avec justement la technologie ?
En fait, on voit la technologie comme un outil qui permet de révéler les invisibles, les couches d'imaginaire qui nous entourent et que on ne peut évoquer que par des mots la plupart du temps, mais là on peut les rendre palpables, sensibles, on peut les montrer à ceux qui n'arrivent pas forcément à les voir. Et donc c'est un outil de partage pour nous.
Et c'est vrai qu'on est très émus, nous, dans l'observation de la nature, des mouvements de la nature en particulier. On évoque souvent, quand on nous pose la question, les bancs de poissons, les vols des tourneaux, ou le mouvement de l'air, justement, dans un champ de blé. Et on a à cœur de transposer, non pas exactement l'image qu'on a perçue, mais plutôt l'émotion qu'on a éprouvée, et de faire vraiment ce travail de transposition, je l'espère, poétique, avec des outils numériques, pour amener peut-être la nature dans les théâtres, quand on fait un spectacle, ou dans les salles d'exposition, quand on fait des installations.
En fait aussi, le numérique sert également à tisser des liens entre des choses qui n'ont a priori aucun rapport, et c'est dans cette ellipse de sens qu'il peut se passer des choses aussi. Par exemple, si on modélise très finement le mouvement d'une feuille qui tombe mathématiquement, on va pouvoir l'appliquer finalement après à un autre objet qu'une feuille. Et mettons qu'on fasse tomber un mot comme une feuille morte, ça va fabriquer du sens tout de suite, l'association du mouvement et de la sémantique du mot. Et donc, par exemple, si on fait tomber le mot espoir comme une feuille morte, c'est totalement tragique, mais ça dit quelque chose. Et voilà, c'est dans cet écart de sens qu'on trouve qu'il y a un espace de recherche qui est très excitant.
Comment s'articule concrètement dans votre travail ce partage entre d'une part le travail de la technologie elle-même et du numérique et la dimension artistique? Est-ce que c'est quelque chose qui s'opère de manière fluide? Comment ça fonctionne?
De manière totalement organique, on va dire. Non, c'est dans un dialogue perpétuel et on a un grand plaisir à jouer ensemble en fait avec l'art, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé sur un coup de foudre de travail. Et le fait que on fabrique nos outils, nos propres outils numériques, mais pas que les outils numériques, on fabrique tous nos outils presque.
Pour chaque installation, vous fabriquez les nouveaux outils.
Voilà. Ça nous permet d'être dans un rapport entre l'idée et la réalisation qui fait qu'on ne sait pas qui porte qui.
En fait, on est très très attentif à créer l'outil autant que la création qui est faite avec l'outil. Parce qu'on sait qu'en fait, la création, elle est déjà induite par l'outil avec lequel on va la générer. Et donc, on écrit les logiciels avec lesquels on va créer une projection générative et interactive. on conçoit les ordinateurs sur mesure en fonction des besoins qu'on a pour générer telle ou telle situation. On défend en fait cette démarche de revenir très très en amont des outils et de se les approprier et de retrouver une autonomie, en particulier à l'heure où tout plein d'informatique nous entoure et on a l'impression qu'avec les interfaces qui nous sont proposées, ben, on n'a pas bien le choix. Et nous, justement, on défend ce processus-là de retrouver le choix le plus en amont possible. Et dans un dialogue effectivement permanent entre Adrien et moi, sachant que l'un et l'autre, on porte à la fois du rationnel et de l'intuitif. Il n'y en a pas un des deux qui est le rationnel et l'autre l'intuitif. Moi, j'ai certes une formation artistique, mais je suis d'une méthode et d'une une organisation
implacable.
Là où Adrien, de son côté, c'est vraiment lui qui va aller coder et écrire les lignes qui constituent les logiciels qu'on utilise.
Et je code de manière très bordélique.
Si c'est toi qui l'écris.
Donc tout ça s'arrange en fait.
Voilà. Ça nous permet de nous comprendre.
Après, on essaye d'être très sensible à ce qu'est ce médium, qu'est-ce qu'il peut raconter, qu'on ne peut pas forcément raconter autrement. Qu'est-ce qu'il a de spécifique comme message ?
Ce qu'on peut voir aussi donc à la fondation d'entreprise Martel à Cognac, c'est des projections lumineuses aussi, je le disais en introduction, sur le sol et sur les murs, et qui réagissent au passage des gens qui vont visiter cette installation-là. Et j'ai l'impression que c'est capital dans votre travail, cette question de créer des projections lumineuses ou autres qui réagissent au corps humain qui circule dans l'espace.
Je pense que dans notre travail, on essaye de faire en sorte que les images ne soient plus du tout vécues comme des images, mais comme des territoires ou des espaces, des partenaires de jeu. Et pour ça, c'est nécessaire que le corps puisse s'y intégrer naturellement. Donc pour nous, ça fait partie du travail dès le départ, quoi. Comment on tisse un lien avec cette image. Ensuite, je pense qu'on est tous les deux très attachés au mouvement des choses, comment elles bougent et comment elles bougent en rapport avec le corps. Par exemple, moi je viens du jonglage et l'histoire d'objets qui bougent en rapport au corps, c'est quelque chose qui m'a traversé vraiment pendant 15 ans et que finalement j'ai la sensation de le continuer de cette manière-là.
Et ensuite, je crois que il y a un aspect aussi qui nous tient à cœur, c'est celui de laisser suffisamment de silence et un équilibre entre justement la présence du corps et de l'humain et l'image, et de ne pas avoir la sensation d'être débordé, d'être complètement inondé en fait par une image qui nous dépasse et qui ne nous laisserait pas la place de rêver, de faire ce travail-là, cette trajectoire-là d'imaginaire en tant que spectateur. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, on travaille beaucoup en noir et blanc, enfin uniquement en noir et blanc même, avec des signes graphiques très simples, des points, des lignes, et on laisse le plus de place possible, voilà, entre les choses et leur sens, pour que les gens travaillent un petit peu. Et c'est dans ce vide-là qu'on espère il se passe quelque chose aussi. Donc l'interaction, elle existe, pour utiliser le terme consacré, mais elle se veut aussi douce et pleine de... Voilà, plein de silence et laissant apparaître aussi un peu de désir, j'espère.
On a voulu prendre aussi le contrepoint de ce qu'on attend habituellement d'une installation numérique qui peut être massive, très impressionnante, qui a des mouvements qui peuvent être mécaniques aussi. Le mot d'ordre qu'on s'est donné avec Olivier Mélano qui a fait la composition sonore, c'est un mot d'ordre qu'on partage, je pense, chacun depuis un moment, c'est la puissante douceur des choses. Et on a essayé d'aller sentir chacun... plus profond de nous-mêmes, qu'est-ce que pouvait être la puissante douceur ?
Oui, une grande douceur qui traverse un peu tout votre travail, que ce soit le travail avec des danseurs ou vos installations. Est-ce que oui, c'était aussi l'idée d'aller contre une espèce de violence des machines, ou en tout cas de quelque chose de la société actuelle, où les machines sont partout et où les effets spéciaux aussi sont partout.
Mais c'est sûr qu'en plus, il faut des gens qui dénoncent par des dystopies affreuses le monde inhumain qui nous attend, ça c'est certain. Et nous, on fait partie de la catégorie qui cherchons à construire une utopie, à construire l'utopie, à apporter de l'eau au moulin pour justement un futur, construire un futur en fait, par en créant des images, en créant des expériences, en créant des sensations, pour inventer ensemble un futur dans lequel l'homme et la technologie réussissent à être dans une harmonie autant que peut se faire. Ouais.
I make this beginning of putting light into a perfectly prepared space
to think about how light can be seen physically and felt.
Je me suis mis à essayer de mettre de la lumière dans des espaces soigneusement préparé. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de mettre en évidence la manière dont la lumière peut être vue et surtout peut être perçue. Mais la lumière, encore une fois, en tant que matériau brut et pas comme porteuse d'une histoire. Par exemple, vous allez dans une salle de cinéma, c'est la lumière qui projette sur l'écran quelque chose. Mais on ne sent pas cette lumière du tout. On l'ignore, elle est totalement escamotée parce qu'on est là pour déchiffrer, pour lire une histoire que nous raconte le véhicule de la lumière. Et pour revenir à cette matière brute, j'ai décidé d'enlever toute image, toute représentation, pour que l'on perçoive la force même de la lumière, mais presque à la manière dont un daim sur une route serait ébloui par les phares d'une voiture, sa perception de la lumière, ou quand on regarde un feu de camp, quand on regarde un feu, et l'état mental, l'état de sensibilité dans lequel on se trouve lorsqu'on est pris par cette force vraiment primale de la lumière.
On entend la voix de l'artiste James Turrell qui parle de son travail sur la lumière et sur la lumière pour elle-même. Il a été important pour vous, James Turrell, est-ce qu'il peut fonctionner comme une référence ?
Absolument. Absolument, dans la puissance des sensations qu'on a pu éprouver dans ses œuvres. Et
ce travail de la lumière pour elle-même, c'est ça qu'il disait dans l'archive. Est-ce que c'est quelque chose qui est important ? Vous avez le sentiment de travailler
dans
ça ?
Pour rejoindre ce que disait Adrien tout à l'heure, c'est important cette justesse que James Turrell a à essayer de comprendre justement ce que ce médium porte comme message en soi. Et je pense qu'on ne lui arrive pas à la cheville. Aujourd'hui, nous, dans notre recherche sur qu'est-ce que ce médium porte en lui-même, ce médium numérique, ce médium fait de projections lumineuses, mais on essaye de comprendre quels sont à la fois les nouveaux types d'écriture et d'expériences qui sont proposés par ces outils-là.
Je pense qu'on rejoint James Turrell à un endroit sur ce minimalisme de moyens. Et par contre, on diverge à un autre endroit, c'est que pour nous, la lumière est là tout de même pour évoquer autre chose que la lumière. Elle est là pour évoquer des choses qui ne sont pas palpables. Mais donc, elle raconte, par le mouvement, elle raconte quelque chose qui n'est pas spécifiquement de la lumière.
On peut donner un exemple. Avec Emotion, donc le logiciel que Adrien programme depuis des années et qui évolue un peu pour chaque nouveau projet, on peut dire à des points « tomber comme si vous étiez des flocons de neige ». Ok, donc on a les points.
Vous reproduisez le mouvement des flocons de neige.
On reproduit en fait avec une combinaison de forces et de paramètres physiques le mouvement des flocons de neige. D'un coup on arrête tout et on dit aux flocons « maintenant vous êtes des cailloux ». Et tout à coup, on retrouve la gravité, on retrouve le poids, et les cailloux se mettent à tomber. On leur donne aussi, en fonction de leur dimension, une capacité de rebond ou pas. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que tout à coup, il y a l'imaginaire du mouvement qui est pour nous un endroit d'écriture et de narration formidable. Alors même que dans les deux cas que je viens de citer, on a les mêmes points, graphiquement identiques. Et nous, en fait, c'est ça notre métier, c'est d'écrire avec l'imaginaire du mouvement. Et donc, on écrit des histoires qui sont plus comme des paysages de road movie, comme ça, en fonction des émotions et des sensations qu'on éprouve en confronté à un mouvement qui nous rappelle des choses. Enfin, moi, j'ai beaucoup lu Bachelard et j'en suis tout imprégnée.
C'est qu'est-ce qui met en mouvement les choses qui nous intéressent ? Qu'est-ce que ça va raconter ? Et en fait, l'œil humain est tellement habitué à voir des choses bouger. Depuis qu'on a ouvert les yeux, on voit des choses bouger, on comprend et on décrypte inconsciemment tout de suite quelles sont les forces qui sont en jeu et qu'est-ce que ça raconte. Et on travaille avec cet inconscient-là, en fait.
Il y a une autre partie de votre travail qui consiste en, là, qui relève plus de l'exposition au sens classique, qui s'appelle Mirage et Miracle, où vous avez mis des formes qui sont dessinées et exposées, et où les spectateurs circulent avec des tablettes. Et ces formes se mettent à bouger. Et on voit donc des choses qui sortent du tableau éventuellement et des choses qui apparaissent en trois dimensions. Et déjà, c'est extrêmement surprenant. Et c'est surtout, je me suis dit que là, vous touchiez à quelque chose qui était de l'ordre d'une forme d'art extrêmement populaire, c'est-à-dire préhensible par à peu près tout le monde. Est-ce que vous avez le sentiment de vivre ça comme ça?
C'est quelque chose qu'on cherche, c'est-à-dire on a envie d'ouvrir grand les portes pour que les gens puissent découvrir. On a, je pense, ce plaisir et cette joie du partage. Donc oui, on a envie que l'exposition elle puisse se vivre très simplement.
Et que c'est une forme de langage aussi qui est universelle.
Alors l'universalité, ça va être...
Ça vous fait peur?
Ça fait peur, oui. Mais
ce qui est universel dans ce projet, c'est le fait qu'on a travaillé sur l'imaginaire des pierres. Et on essaie de faire ressortir l'esprit des pierres. Voilà. Voilà. Donc on a souvent comme ça des fictions un peu animistes dont on revendique tout à fait l'aspect complètement fake, mais qui nous habitent entièrement, qui sont comme ça à l'origine des projets. Et donc les visiteurs se baladent dans l'expo avec une tablette et en observant les pierres et des dessins de pierres, qui au passage sont des lithographies, donc des reproductions faites à partir de pierres, ou des, bon, bref, l'esprit des pierres surgit. Tout le monde ramasse des pierres. Donc tout le monde se dit, ah mais moi aussi je ramasse des pierres, moi aussi je peux aller regarder tout à coup ma propre pierre différemment. Et ce qui nous intéresse, c'est de partir effectivement de l'endroit où les gens sont, avec un iPad dans la main ou un smartphone, et dans leur vie quotidienne, et de peut-être aller à un endroit de, voilà, d'enchantement en fait, de ce quotidien-là, et de déplacement du regard, mais avec beaucoup de modestie. C'est-à-dire qu'on aime bien, voilà, vraiment prendre les gens par la main et tranquillement.
Toujours dans cette forme de douceur.
Ouais, ouais, c'est notre manifeste.
On ne veut pas lutter contre notre nature.
Non. C'est trop tard.
Je disais toujours aux deux acteurs, laissez-vous agir par la machine. Et en cherchant d'une certaine manière que les lois du robot deviennent les lois physiques, remplacent la gravité, c'est en suivant les mouvements du robot et de voir comment le corps humain et l'homme va s'adapter à ces mouvements, et dans le laisser-faire, qu'on atteint quelque chose de l'ordre de la danse et même quelque chose de l'ordre de la grâce. Finalement, ce robot super puissant, très masculin quand même, dans son très phallique, peut-être que il a des failles, peut-être qu'il a ces endroits-là de mouvement où il y a de l'incertitude, de l'hésitation, où finalement il s'abandonne aussi. Et peut-être que dans cet abandon-là, on va percevoir quelque chose de l'ordre de la grâce. Et je cherchais ces zones-là qui sont de l'ordre de l'accidentel, de l'ordre de l'inattendu. Justement quelque chose qui échappe au programme. Et j'ai retenu, notamment, il y a un passage qui me plaît, personne le sait, sauf nous, c'est que c'est un bug, c'est-à-dire que là, la machine se trompe. Elle croit qu'elle tourne autour de son axe, alors qu'en fait, elle tourne autour de sa tête. Et donc, elle se trompe véritablement. Elle croit faire un mouvement, mais elle en fait un autre. C'est ce qui me plaisait, c'est trouver ces failles. Et c'est là où on va chercher, entre guillemets, de l'humanité, là où a priori, il n'y en a pas.
On entend la voix d'Aurélien Bory en 2015 qui parlait de son spectacle à l'époque qui s'appelait Sans Objet, où il dansait avec un robot. Il parle de cette machine qui se met à se détraquer ou en tout cas à avoir des failles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous d'avoir des problèmes mécaniques, enfin des problèmes dans la machine et qui ont pu être des choses créatives?
Tout le temps, en fait, presque le bug, c'est la miette, quoi. C'est, on peut pas couper du pain sans faire de miettes, et ben on peut pas coder sans faire de bug. Et le bug, en fait, à part quand on fabrique des logiciels de gestion de centrales nucléaires, vaut mieux apprendre à vivre avec. Et même en faire une force créative, dans le sens où ça peut emmener dans des endroits imprévus, qui sont surprenants, et qui peuvent être aussi intéressants artistiquement. Donc ça arrive, c'est très fréquemment. C'est pas tous les jours, mais quand même, c'est sur chaque création, il y a une dizaine de bugs qui sont exploités tels quels, parce qu'ils étaient là au bon moment, quoi.
Et puis on peut aussi citer tous les moments où en spectacle, donc où toutes les images sont animées en temps réel par un interprète numérique qui utilise comme ça, voilà, tout un tas d'outils. Il y a quelque chose d'inattendu et il faut vivre avec, il faut imaginer comment faire avec. Et donc dans ce duo qui est formé entre le ou les danseurs sur scène et l'interprète numérique en régie, il se passe quelque chose d'extrêmement humain et d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant qui appartient au spectacle vivant. Et on est très attaché au fait de rester fidèle en fait à ce côté vivant et d'inventer un numérique vivant. Voilà.
Puis, comme je le disais tout à l'heure, en venant du jonglage, je pense que j'ai pris une mauvaise habitude de me dire « Ah bah, c'est pas grave, suffira de pas faire tomber. » Et en fait, la gestion des bugs est à peu près la même dans le logiciel eMotion. C'est « Bah, c'est pas grave, suffit de pas faire d'erreur. » Et du coup, les régisseurs qui font les interprètes numériques des spectacles doivent vivre avec cette tension permanente de ne pas faire tomber effectivement le logiciel en carafe.
Et le bug, c'est aussi, ça pourrait être, dans une interprétation, quelque chose qui serait de l'ordre de la part humaine de la machine.
Après, il faut penser que nos architectures logicielles et matérielles, donc c'est-à-dire comment tout est assemblé pour fabriquer un projet, ce sont des cathédrales, c'est des châteaux de cartes. C'est plus de l'ordre du palais du facteur cheval, mais fait avec, je sais pas, des allumettes, quoi. Et on fait ça à côté d'un grand brasier. Donc c'est hyper dangereux, ça marche pas très bien.
C'est très fragile et c'est fait par des gens, par des humains. Et on le redit souvent, hein, tout ce qui nous entoure, qu'on croit être informatique et un peu autonome comme ça, et un peu sorti de la cuisse de Jupiter. Non, mais il y a des gens derrière qui ont choisi.
Il y a toujours un humain derrière.
Il y a toujours un humain. Il y a toujours un humain qui a pensé comment elle était designée, de quoi elle était composée et quels étaient les algorithmes qui fonctionnaient à l'intérieur. Et voilà.
Quels étaient les retours que vous aviez dans les spectacles de danse là, que vous évoquiez c'est des danseurs qui dansent avec des formes numériques et lumineuses. Quelles étaient leurs sensations?
Les sensations des danseurs ou des spectateurs?
Des danseurs.
Ah bah, c'est un langage qu'il est important d'apprendre au départ parce qu'on ne le connaît pas. C'est-à-dire comment danser avec cette matière, en fait, cette entité. Je reprends cette ambiance animiste là que j'ai évoquée tout à l'heure. Voilà, on est en présence de quelque chose. Et on est comme avec une marionnette. Et c'est vrai que nous, on se sent très proche du milieu de la marionnette, pour ces raisons-là. On apprend en fait à danser avec une marionnette qui est dont les ficelles sont numériques, bien sûr, mais ça reste quand même voilà un objet inanimé qui est mis en vie et qui génère une sensation de présence et avec lequel il faut apprendre à dialoguer.
Pour caricaturer, il y a quand même toujours un moment de surexcitation de ce rapport entre le corps et l'image. Je pense notamment au spectacle Pixel où on travaille avec des danseurs hip-hop et dans l'augmentation des effets visuels du corps, on arrivait à révéler des choses qu'ils généraient avec leur mouvement, mais en les amplifiant sur le plateau. Et ça, c'est toujours très excitant. Et après, vient la deuxième phase, toujours d'inquiétude, mais l'image est monumentale. Et comment on va trouver un rapport juste entre nous deux pour exister, chacun, sur scène?
Et aussi, comment on va réussir à refaire deux fois la même chose?
Oui.
Et comment reproduire le même mouvement?
Voilà. Oui, parce que c'est toujours un peu d'aléatoire. C'est vraiment lié au mouvement qu'on a en régie, puisque c'est des régies presque jonglées, enfin danser des doigts en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y a des enjeux de reproductibilité qui sont loin d'être gagnés.
Mais toutes les demandes d'enregistrement ont été refusées.
Et comment s'articule dans votre travail le moment où vous allez par exemple travailler avec un danseur ou faire une installation? C'est quelque chose qui se fait comme ça ou est-ce que ça correspond à des désirs à des moments donnés de vouloir faire quelque chose par exemple avec un humain, un danseur ou quelque chose qui soit plus de l'installation?
L'humain est toujours au centre des projets quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que ce soit dans les installations, ça sera le corps des spectateurs, dans les spectacles, ça sera le corps des acrobates, des danseurs, enfin des interprètes au plateau. Après, la notion du désir chez nous, elle est première et c'est ça qui va dire qu'est-ce qu'on va créer et on alterne souvent une pièce plutôt pour la scène et une pièce plutôt pour de type installation.
Merci Adrien M et Claire B. Votre installation L'ombre de la vapeur est visible à la Fondation d'entreprise Martel à Cognac jusqu'en mai 2019. Merci à Anaïs Isbert, Oriane Delacroix, Lila Bozès, Anne Toscan-Viudès et Anne-Olivia Marchaison qui pensent et préparent cette émission avec moi. Lise Combe était à la réalisation. Aujourd'hui au son, c'était Kevin Boisseau. Pour réécouter la grande table d'été, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Ce soir à 18h15, vous retrouvez dans Du Grain à Moudre Mélanie Chalandon qui posera cette question. Réforme de l'apprentissage, l'entreprise est-elle le meilleur lieu de formation ?